On va refaire un deuxième cours. On a déjà fait un premier cours sur les kétorètes. Comme il y en a plusieurs qui n'étaient pas là, donc on va reprendre les grands points des kétorètes. Alors, les kétorètes, c'est une mitzvah de le lire. Allez, messieurs. Les kétorètes, d'accord. On va décortiquer aujourd'hui. C'est une mitzvah de le lire. On le lit au moins 3 fois par jour. D'accord. Alors, il faut essayer de le lire au moins 1 fois par jour. Mais dans les faits, on le lit 3 fois par jour. Comme où je trouve 3 fois par jour, on a le matin avant la prière, le matin après la prière, vous savez, juste le kaveh la shem chazakum mincha, tout ça, c'est les ketoret, et on a avant mincha. On a 3 fois par jour. L'importance des ketoret, pourquoi c'est très important les ketoret, on dit que les plus grands décrets, même que Dieu préserve le peuple juif avait, ils partaient avec la ketoret. C'est-à-dire que lorsque le Kohen Gadol amenait les encens au Beth Amikdash, il dit que ça enlevait la majorité des décrets, des xérot, ras v'shalom. D'ailleurs, on le voit déjà depuis la première fois, lorsqu'il y a une épidémie dans le désert, et qu'on n'arrivait pas à arrêter avec toutes les tfilotes. C'est là que Kadosh Baruch Hu a donné à Moshe Rabbeinu, qui a retransmis à Aaron, le secret des kétorettes. Et lorsqu'il a donné le secret des kétorettes, Aaron a fait les kétorettes, et tout de suite, l'épidémie s'est arrêtée. C'est-à-dire que les kétorettes, c'est un pouvoir extraordinaire encore aujourd'hui. Rabbi Shimon Bar Yochai, il dit dans le Zohar, il dit, si les gens savaient l'importance des kétorettes, combien les kétorettes sont importants devant Kadosh Baruch Hu, ils auraient pris chaque mot des kétorettes et ils les auraient mis sur leur tête pour se couronner avec. C'est-à-dire que c'est très important. Nous, on croit que c'est juste, bon, c'est un menu. Mais en vérité, c'est très très important. Dans chaque mot des kétorettes, bien sûr, on baisera Tachem, M. Benichou, mais ça ne fera pas aujourd'hui. Il nous a préparé des... Le problème dans les kétorettes, c'est que moi, j'avais que les noms en latin. M. Benichou, il m'a fait un travail exemplaire. Sur internet, voilà, c'est des deux feuilles. Voilà, sans les feuilles. Voilà. C'est un boulot exemplaire, c'est bon. Ça, Bezrat Hashem, on étudiera après les vacances. Il y en a plusieurs qui sont pas là, qui voulaient suivre ça. Donc avec tout l'explication, qu'est-ce que c'est, d'où ça vient, les correspondances aujourd'hui, quel médicament on fait avec et tout, vous m'avez tout vu, monsieur Benichou? Bon, pharmacien, voilà. Les kétorettes. Qu'est-ce que ça soigne, qu'est-ce que ça fait?
C'est les plantes.
Mélanger, pour faire ça. Ça c'est pour les kétorettes. C'est comme ce que je dis toujours. Chez les séfarades, d'habitude elle a été prise, qu'il y a une personne qui fait à voix haute, puisque pas tout le monde le sait les lire. Donc bon, il y a une personne qui lit à voix haute. Et en tout cas, moi, ce qui concerne ma famille, ce qui concerne ceux qui savent lire, j'en dis toujours de lire. Pas parce qu'il y en a un qui lit à voix haute qui rend quitte tout le monde. Sauf que bon, chez les Sfarades, on a pris l'habitude qu'il y a un qui lit à voix haute, puis comme pas tout le monde sait lire, alors il va le rendre quitte. Et c'est comme pour la Amida. La raison pour laquelle on fait la Khazara, c'est pour rendre quitte celui qui ne sait pas lire. Mais c'est évident que celui qui sait lire, il doit lire. Comme c'est très long les Kétorettes, il y a des gens qui s'embrouillent les mots, en plus c'est des mots difficiles. C'est pour ça que dans ça, pas particulièrement, on fait à voix haute. Bon, bien sûr, celui qui sait les lire, il doit les lire. C'est très important. Faut compter sur personne. Ça c'est la paracha des kétorettes. Alors, donc on va prendre à Vayomer Hashem el Moshe karlecha tamim.
C'est pas le même texte, hein, je ne pas de chez...
Ici là, Vayomer. Vous avez Vayomer Hashem el Moshe karlecha tamim?
Oui, juste avant
tamim. Voilà. Attends, le début on l'a déjà lu, on va le relire rapidement. Voilà. Vayomer Hashem el Moshe, donc Dieu a dit à Moshe, Kachlecha Samim. On prend ces ingrédients, les ingrédients qu'on va citer. On ne traduira pas aujourd'hui, ça on traduira Bezard Hashem après l'été. Donc il cite Nata, Fushrelet, Vechelbena, Samim, Ulvona, Zaka. On arrivera après à 11 ingrédients. Bezard Hashem, on rentrera dans les détails après parce que je ne peux pas simplement les traduire parce que. Non, c'est pas que c'est trop long. C'est que des fois sur un mot, il y a plusieurs traductions. Vous voyez des marques loquettes, à quoi ça correspond. D'accord. Tout se trouver, tous les noms que j'ai donnés. Tous les noms que je donnais, j'ai pris à chaque fois le commentaire de Rashi, etc.
Oui, bien sûr,
j'ai trouvé sur un Baruch Hashem, enfin, bon. Alors, Ve'asita Ota Ketoret. Donc, on va déjà parler comment on faisait les Ketoret. Donc, Ve'asita Ota Ketoret, on préparera en tant que Ketoret. Rokar, Maase Rokar. Donc, on devra les mélanger. Pardon. On devra les mélanger. Maase Merkachat. D'accord? De la même manière qu'un pharmacien l'aurait fait. On doit mélanger les ingrédients avec un dosage. D'accord? Il y a toute une préparation. Memoulard Tahor Kodesh. Donc Memoulard Tahor Kodesh, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on doit d'abord s'assurer que ça soit bien mélangé, les ingrédients soient bien mélangés. Tahor, qui soit pur. Pur, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne mélange pas, on ne mélange aucun, on s'assure pour qu'il n'y a pas de poussière, donc on le nettoie au maximum, que ce soit le plus pur possible. Et Kodesh, on le fait bien sûr, on ne l'achète pas n'importe où, on le prend directement, et on le faisait directement pour le Beit HaMikdash. Il n'y avait pas d'intermédiaire. Veshachakta mimena hadek. Donc on devra le moudre très très fin. Donc tous les ingrédients qu'on verra, principalement des plantes. C'est ça, M. Benichou?
Ouais.
Principalement des plantes. Donc des fois c'est la racine, des fois c'est les coquilles. Bon, il y a aussi, mais c'est principalement des plantes. On devait les moudre hadek. Hadek, ça veut dire quoi? Hadek, ça veut dire en arabe, hadek, ça veut dire quoi?
Hadek.
Ouais.
Hadek.
Ada. Hadek.
Hadek, ça veut dire tu as.
Alors, hadek en hébreu, ça veut dire fin. Donc hadek. Venatata mimena. Lifne aedut be'el moed asher yvaed lecha shama. Donc on devait préparer les ketoret et on devait l'amener devant la tente d'assignation. Alors je vous explique ce qu'est la tente d'assignation.
Des photos d'époque.
Des photos de quelqu'un qui y était.
Belles plantes.
Regardez. Vous voyez, ça c'est, puisqu'on vient de Tisha B'Av, ça c'est le Beit HaMikdash. D'accord? Ça c'est la première section. Ici on a un bâtiment qu'on appelle le Oulam. C'est là que la majorité des choses se passaient. Dans ce bâtiment qui s'appelle le Oulam, on a, je tourne les pages, voilà, on arrive au Oulam, c'est ça ce bâtiment. Donc à l'intérieur de ce Oulam, on n'est pas encore arrivé, voilà. Voilà, à Oulam. Donc on a le Oulam, donc ici vous voyez, on voit ce qui se passe à l'intérieur. Donc à l'intérieur, on voit apparemment un grand rideau. On voit des choses qui se passent. Alors, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Voilà. Donc, dans la première partie, on a... Donc là, vous voyez ici, il y a un rideau, mais le rideau est ouvert. Vous voyez?
Oui.
Normalement, il est fermé, ce rideau. C'est ce rideau qui sépare entre le Kodesh et le Kodesh à Kodashim, le Saint et le Saint des Saints. Donc, dans la deuxième partie, dans la partie intérieure, qui était recouverte d'or, on le voit bien, on voit ici, on voit ici l'Arche Sainte. C'est l'Arche Sainte à l'intérieur, et le Louchot.
Les deux, normalement.
D'accord? Mais ça, c'était fermé. Les deux chérubins, oui.
Oui, non, mais il n'y a pas deux arches.
Non.
Celle de...
Non, 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 c'est à l'intérieur. Tout est à l'intérieur. On a un système de boîte, d'emboîtement, tout est à l'intérieur. Ça, le rideau est fermé. Le rideau est fermé, mais à l'extérieur de ce rideau, qu'est-ce qu'on a? C'est le Kohen, il rentre tous les jours. Il y avait un Kohen très posé. On avait la menorah. Non, chanter, c'était dehors.
Chandelier.
Ah oui, d'accord, j'entends chanter. Le chandelier est ici, avec un petit escalier pour monter.
Et...
Enfin bon, techniquement, on n'est pas obligé de s'en servir puisque le chandelier est à cette hauteur.
Mais on n'était pas grand à cette époque, hein, 1m50. Hein.
Bon. Ici, on a, qu'est-ce que vous reconnaissez ici? Hein, les cuisiniers.
Ça
ne
suffit pas, ça.
Regarde, ça, ça c'est les pains de préposition, 12 pains de préposition.
Oui.
Et devant, alors, je ne sais pas si on arrive bien à voir dans la photo, on a ici Misber Azav, un hôtel recouvert entièrement d'or.
Ça là?
Cet hôtel. Sur cet hôtel-là, d'accord, pratiquement la seule chose qu'on faisait, c'était les kétorettes. C'était le Ketoret, donc l'instance qu'on est en train de dire ici.
Il est transporté.
Et donc c'est pour ça qu'on dit ici, oui, ouais, transporté. Voilà, c'est qu'il y avait des barres, ouais. Vous voyez,
ouais, à l'époque
la majorité...
Il a fait des lourds, donc...
La majorité, vous voyez, ça c'est l'entrée du Oulam, l'entrée de ce bâtiment. La majorité des sacrifices étaient faits sur un hôtel qui était à l'extérieur. Grand hôtel, qui était à l'extérieur. Tout un système, des pentes, petites pentes, grandes pentes, tout autour, un sang, etc. Enfin, tout un système. Mais les Ketoret, ils sont offerts ici. Alors vous voyez ce qu'on est en train de dire ici dans le pasouk, on a dit... L'ifné a édout. On a dit qu'on devra mettre les kétorettes devant la tente d'assignation. Non, on comprend. On comprend. La tente d'assignation est là, les kétorettes sont là.
C'est le temple, c'est pas la tente.
Attends.
Hein.
Oui, là on était dans le désert.
Parce que là on trouve aucune temple, hein. C'est le temple Mamash.
Oui, 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 bien sûr. Là on était on parlait dans le désert. D'accord. Mais en tout cas, le concept on l'a compris. Le concept on l'a compris, c'est qu'ils étaient en ligne droite, face à face.
C'est pareil d'un rideau.
D'accord. Oui, c'est sûr. Donc, de toute façon, c'est compréhensible qu'on ne faisait pas, il n'y avait pas du grand feu à l'intérieur, puisque ça prend vite feu tout ça, il y a des rideaux et tout ça, ouais. Ça prend feu. D'accord. Mais la majorité des sacrifices étaient dehors, c'est normal, logique.
Carrelage bleu, j'avais pas remarqué.
Ouais, ça c'est un peu cuisine, hein.
Ça fait... Celle de Chine, de machin.
Ouais, cuisine, ouais, exactement. Non, à l'extérieur, c'était un carrelage noir et blanc.
Damier. Un petit jeu aux échecs.
Alors, c'est pas sûr que c'était noir et blanc. On sait que c'est un damier, mais c'est pas sûr que c'est noir et blanc. On dit que, en tout cas, c'est écrit, la Mishnah Midat, elle raconte, elle dit que quand le soleil tapait dessus, avec les damiers, ça faisait un effet, on avait l'impression qu'il y avait des vagues.
Des vagues. ça brillait quoi.
Ici aussi, dans le Oulam, vous voyez, ça c'est le bâtiment.
Bon.
Il y avait ici, le bâtiment était fait, on le voit pas bien ici. Voilà, ici on arrive mieux à le voir. Vous voyez ici comme une sorte de trait que vous arrivez à voir dans le bâtiment. Dans le mur du bâtiment,
oui.
Il y a comme une sorte de trait.
Oui.
Parce qu'en fait, c'était pas un mur qui était lisse. Il y avait une pierre qui sortait, une pierre qui rentrait, une pierre sortait, une pierre qui rentrait. Il y avait un jeu de couleurs.
C'est en relief,
et on dit que lorsque le soleil tapait dessus, pareil, on avait l'impression qu'il y avait comme des nuages. Très beau. D'accord? Parce que bon, le soleil, au prochain, on manque pas.
On appelle les effets spéciaux.
Ouais.
On les a perdus maintenant.
Donc on avait ce qu'il faut, on avait la fumée, le feu, les effets spéciaux, le soleil.
Avec les vitraux aussi.
Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai.
Il y avait même une crise en split, là. Tu la vois, là?
Il y a Rav Mordechai Yahou, Rav Shalom. Une fois, il y avait un interview dans lequel quelqu'un lui a posé la question, il a dit, d'après vous, est-ce qu'il y aura des éléments modernes dans le Beth Amikdash, le troisième Beth Amikdash? Alors, il a répondu à la chose suivante. Il a dit, je sais pas s'il y aura des éléments modernes, mais une chose je sais, c'est que, à l'époque du Beth Amikdash, on avait un problème. Quel problème on avait? C'est que le sol était très très chaud, c'était du marbre. Le sol était très très chaud en été. Et le Kohanim marchait pieds nus.
Oui.
Alors, comment?
Il rafraîchissait avec l'eau.
Oui, mais attends, le sol est brûlant. Rafraîchir, tu brûles.
Brûle.
Comment on faisait? Alors, il dit, à l'époque, il avait trouvé un système. Il faisait.
C'était à ciel ouvert, quoi.
À ciel ouvert, bien sûr.
Ah,
regardez.
Parce que, en général, le
carrelage,
au contraire,
là,
ça rafraîchit.
Ici, là, c'est.
Ah non, là, le soleil est tapé.
Tu mets du carrelage
dessus. C'est brûlant. Vous voyez?
Oui, parce qu'il est.
Là, on le voit ici, il est exposé au soleil. C'est brûlant. Alors, comment on a fait? Alors, bon, là, ici, on n'était pas pieds nus, donc il n'y a pas de problème. Le problème, c'est ici. Ici, on était pieds nus. On avait trouvé un système avec une source qui était d'un jet apparemment assez fort. Et on avait fait un système qui avait une source qui passait constamment à ras du carrelage. Pour rafraîchir le carrelage.
Canalisation.
Mais et l'eau, la
canalisation.
Et l'eau,
non, l'eau, on la voyait pas. Sous le carrelage. Pour l'époque, c'est pas mal, hein. Pour l'époque. Alors, Laura Modakhaïdio, il a dit, certainement qu'aujourd'hui, quand Machia reviendra, certainement qu'on aura des systèmes peut-être plus sophistiqués que ça pour rafraîchir. On aura des clims, des trucs, sol réfrigéré. Ah, aujourd'hui dans les voitures, on peut faire d'un côté il fait chaud, de l'autre côté il fait froid. Bisonne.
Des terrains de foot.
Oui.
Oui, mais c'est pas pour les gens, c'est pour pas qu'elles gèlent.
Ouais. Alors on continue. En tout cas voilà. Vous voyez, donc là c'est. Donc on revient au Ketoret. Venatatam imena lifne edut boel moed asher ivaed lechashama kodesh kadashim tielachem. Donc la Ketoret était considérée comme le saint des saints. Parce que rappelez-vous, je vous ai montré, la majorité des sacrifices étaient faits à l'extérieur. Les Ketoret, lui, avait le privilège d'être fait à l'intérieur. Il n'y avait presque personne qui rentrait à l'intérieur. D'accord? Parce que c'était le Kohen Gadol en général qui s'en occupait, les Ketoret. Alors, Venemar, Veiktir à la vente Torah de Samu, donc je vous traduis, hein, alors, Bavoka, Betivot, Anirot, Yektirena. Donc Aaron, à quel moment il faisait les Ketoret? On
le dit tous les matins.
Il faisait les Ketoret au même moment qu'il allumait la menorah. Donc le matin, c'était au petit matin. On ne se rend pas compte, mais un petit matin, ça veut dire que c'est à 4h du matin. Dès que le jour se levait, on venait, on faisait un tour du Beth Amikdash, on s'assurait que tout était ok. Première chose qu'on faisait, on allumait la menorah. Et juste après qu'on allume la menorah, on n'allume pas la menorah, on prépare la menorah. Parce que la menorah, on l'allumait le soir, juste avant que le soleil se couche. Mais le matin, là, ce qu'on faisait, on préparait la menorah. On l'a préparé. On enlevait les mèches, les anciennes mèches, etc. On l'a préparé. Et en même temps, on s'occupait des Ketoret. C'était au petit matin, 4h du matin. D'accord? Par contre, les Ketoret, eux, on les allumait, on n'attendait pas le soir, on les allumait tout de suite. Ouvalot, Aaron, Etanerot, Benerba, Miektirena, Ketoret, Tamid, Lifne, Hachem, les Dorot, Echem. Donc, deux fois par jour, on allumait les Ketoret. Et c'était lié à la menorah. Première fois, lorsqu'on préparait la menorah le matin, à 4h du matin, deuxième fois, lorsque le soleil se couche et qu'on doit là allumer la menorah, on rallumait encore une fois les Ketoret. Alors c'est pas exactement rallumé, ça veut dire qu'on rajoutait un peu d'encens parce que ça restait allumé. D'accord, ça restait allumé. Bon, c'était pas, je sais pas si c'est comme un peu ils font la narguila, c'est ça, comment ils appellent ça?
La chicha.
La chicha.
Hein?
La chicha.
Bon, ça peut rester très longtemps ça, quand on en met pas mal, ça peut rester longtemps, ça vous tient une journée sans problème.
Mmh.
D'accord? Ouais. J'ai jamais essayé, mais.
Mmh. Mais les Ketoret, elles étaient sous forme liquide ou c'était
non.
Une poudre.
On l'a réduit en poudre. Alors justement,
fine.
Tanoura Banane a enseigné les Rachamim. Pitou, Maketoret, Ketsan. Donc c'est là où on parle. Vous avez Tanoura Banane?
Oui.
Tanou Rabanan, c'est là. Tanou Rabanan. Les Chachamim m'ont enseigné, dans le traité écrit, Pitoum HaKetoret Ketzad. Comment préparer les Ketoret? Ça, c'est la grande question. Parce qu'encore une fois que t'as la poudre, c'est facile à la mettre. Mais la question, c'est comment on prépare ça? Alors, Shlosh Meot Vishishim Ushmona Manim Ayuva. On préparait, quand on préparait les Ketoret, on préparait 368 portions. Donc bien sûr, on préparait l'équivalent de 368 portions. Keminya Nimot Achama, pourquoi 368? 368, c'était Keminya Nimot Achama, ça veut dire comme les jours solaires. 368, donc le maximum. 365 ou 368. D'accord? C'est ça? Je crois qu'on a 365 ou 366 ou 368, c'est ça?
Non, il n'y a pas 8.
Il n'y a pas 8?
Mais ils vont te le dire pourquoi 8.
Alors, attendez. Alors, mané l'écholium. Il y a l'équivalent d'un mané. Alors, un mané, c'est l'équivalent de 100 dinars. D'accord? Donc, c'est quand même un certain point. Alors, ici, il donne le point. Voilà. Kamut Asiata. Donc, on le préparait. Alors, avant d'avancer, il faut d'abord vous dire que, alachiquement, on pouvait préparer les Ketoret tous les jours. On pouvait préparer cette portion tous les jours. Mais ça prenait un temps fou. Parce qu'il y avait un dosage, il y avait un système, etc. Donc dans les faits, ce qu'on faisait, on le faisait une fois par an. Plus simple.
Une grosse quantité.
Une grosse quantité qu'on préparait pour toujours. Alors, donc on préparait 368 voilà, portions. Et ici, je me rappelle de donner la mesure. Data Minhadaka, non.
De toute façon, ça ne peut pas dépasser 800 kilos. Non, une tonne.
C'est très lourd, hein.
Voilà, une tonne.
Trompez-vous.
Ça fait 3 kilos dans le sens par jour. C'est ce qu'il y a.
Combien? 3 kilos
dans le sens. Tu sais, les petits cubes là, qui sont les Indiens, là. Oui. Imagine qu'on a 3 kilos comme ça. C'est long.
Non, j'ai oublié où t'as le mis. Bon. En tout cas, c'était assez lourd. D'accord? C'était assez lourd. Un manet, si vous voulez avoir à peu près approximativement, j'ai pas la taille exacte. Un manet, c'est le poids de 100 dinars. Vous prenez 100 pièces de dinars.
Ah, ça va alors.
D'accord? Ça, c'est par jour.
Ah ouais.
D'accord. Oui. J'ai vu le poids ici.
100 pièces d'un euro.
Quand j'ai préparé, je ne vais pas vous dire de bêtises. Quand j'ai préparé, j'ai vu ici donner le poids exact en kilos.
Bon, c'est 300-400 grammes.
Je ne sais pas.
À 1000 kilos. Multiplié par 300.
Bon, en tout cas, voilà.
Ça fait 1,5 tonne. Non.
Ça fait, voilà, mané le rhodium. Voilà, c'est bon. Mané le rhodium. Bon, je vous dirai pour les intéressants au prochain cours sur le Keton.
Il faut faire un tableau avec les poids et les mesures.
Oui, oui, oui. De toute façon, les poids et les mesures, on les a pas. On a seulement les ingrédients. Ah non. Non, on a que les ingrédients. Il n'y a pas de poids là.
Ah, il n'y a pas les proportions.
Qui
s'est
préparé ça?
Bonne question.
Ouais.
Alors, c'est une bonne question que vous posez parce que on raconte qu'au début, bon, c'est Aaron qui s'en occupait. Mais après, avec le temps, les Kohanim ne savaient plus le faire. Donc on amenait des gens, et il y a même des fois on est parti chercher des gens en Alexandrie. Ouais. Il y avait des gens qui, des professionnels là-bas de, bah, apparemment, des bons fumeurs, voilà. D'accord. Et on dit qu'il y a une fois on est parti chercher des gens là-bas pour nous expliquer comment on fait parce qu'on avait perdu la...
Non mais attends, il y avait un secret.
Ah bien sûr qu'il y a un secret.
Il y avait un secret qui ne se donnait pas entre eux, il y avait une famille qui détenait un secret, que même s'il y avait du
le secret a été donné à Aaron.
Droite.
D'accord. Le secret était donné à Aaron, mais bon, après avec le temps, on dit qu'on avait dû faire appel à des services de quelqu'un, d'un goy, hein, un goy qui était à Alexandrie pour au moins nous expliquer comment on devait faire. Alors, donc, mané le cholium, phrase de shacharit ou phrase ben arbaï. Donc il y a un mané par jour. Un mané par jour, on a dit, c'est l'équivalent de 100 pièces. Bon, je ne sais pas combien ça fait. À mon avis, ça doit être l'équivalent de 500 grammes environ. 500 grammes. 500 grammes, donc on compte 250. Le matin, 250 l'après-midi. C'est beaucoup, hein. Beaucoup, je...
Deux fois le matin.
D'accord. Non, une fois le matin, une fois le soir.
On les lit deux fois.
Oui, on les lit deux fois le matin, mais c'est une fois le matin, une fois le soir.
Bon, une ligne par jour, et c'est une demi-heure le matin, une demi-heure le soir, on va dire.
La raison principale pour laquelle on lit après la pila, on verra après, c'est parce que c'est pas tout le monde ne peut le lire avant. Mais c'est pour ça que moi, quand j'ai le Ketoret, c'est beaucoup plus court, parce que celui qui l'a lu avant, le deuxième Ketoret, il fait beaucoup plus court. Bon, on y arrivera, Bézrat Hachem, dans le cours de la pila. Le Ketoret le plus important normalement c'est avant la fila. Bon, celui qui peut pas, il fait après,
il fait la maison.
D'accord. Non, on fait ici, bon prochain, on est à l'épicéterie. Sam, c'est Benichou, il est là.
Non,
c'est pas moi qui l'ai fait. Non,
Monsieur Serreau, il l'a fait. Non, quand il vient tôt.
Moi, je l'ai fait rapidement, doucement, mais Monsieur Serreau, il l'a fait. Il fait ça, il fait le zéo mécoman.
À ce propos, si on fait, il faut avoir une trop grosse cavana quand on veut les traites, parce que si on fait une petite, un truc, on les rend,
invalides. On y arrivera.
J'ai lu ça.
Alors.
Les gens, ils font, hop, c'est fini.
Non, bon, ne racontez pas d'histoire.
Bah, j'ai lu ça.
Tu peux te filer, c'est comme ça.
Vous allez nous saper le moral.
Alors. Mané le cholium, phrase de shacharit ou phrase ben arbaïm. Donc, on a un mané par jour. Un mané par jour, ça veut dire quoi? Ça veut dire, donc, on a expliqué à peu près 500 grammes.
Bah non.
250, donc, phrase, la moitié le matin et la moitié ben arbaïm, l'après-midi. Ouche le cham, anim et terim. On avait trois supplémentaires. Donc, 365 plus 3, ça fait 368. Ouche le cham, anim et terim. On en a trois supplémentaires. Shemé, martnis, kohen, gadol, melo, chofna, viam, akiporim. Avec lequel le Kohen Gadol rentrait le jour de Yom Kippour. Vous savez que le Kohen Gadol, le jour de Yom Kippour, il rentrait également dans le sein des, donc il rentrait également ici, dans le sein des saints, mais en passant, il passait par ici, il passait donc par la première section. Et là, on avait les Ketoret. Et le Kohen Gadol, lorsqu'il amenait les Ketoret, écoutez bien, le jour de Yom Kippour, il mettait triple dose.
Pourquoi?
Parce qu'on a expliqué que le secret des Ketoret, c'est pour enlever les décrets. Et le meilleur moment pour enlever les décrets, c'est quand? Yom Kippour, c'est le moment de Teshuvah. Il mettait triple dose. Bon, avec des cavanotes, bien sûr, associés, mais triple dose.
Est-ce que ça a un rapport avec le nombre de sacrifices qui allaient être faits?
Oui, bien sûr.
C'est ce qu'il a dit, Maïmoni, là.
Oui, bien sûr.
C'était quoi, les
Ketoret? Alors, au Shlosha, Maïmoni, il y a deux commentaires, Maïmoni, c'est pas... Alors, Shema Machin, c'est Gadol, Melochofna, Biyom, Akipurim, ou Machazir, donc, le Kohen Gadol, il rentrait avec Melochofna. Donc, on dit que le Kohen Gadol, lorsqu'il rentrait, il fallait les prendre à la main. Donc, on dit que le Kohen Gadol, lorsqu'il rentrait le jour de Yom Kippour, il avait les mains comme ça, bien rempli avec des Ketoret. Bon, peut-être qu'il avait des gants, je sais pas ce qu'il avait, mais en tout cas, on prenait comme ça à la main. Umachaziran le marteshet, beerev yamakipurim, veshochakan yafa yafa kedeshete daka min hadaka. Donc avant Yom Kippour, le Kohen Gadol s'assurait, on le repassait au pilon la veille de Yom Kippour. Toute l'année, on le repassait pas, on faisait une fois par an. Mais ceux qu'on devait amener le jour de Yom Kippour, on le repassait au pilon la veille de Yom Kippour, pour s'assurer que ils sont bien fins, que c'est une poudre, et bien fine. Pourquoi?
C'est pour sentir bon maintenant.
Oui. On dit qu'il y avait une odeur extraordinaire. Extraordinaire comme odeur. On dit que dans tout le vieux Jérusalem, se sentait. Ce qu'on amenait, c'était des plantes particulières. On le voit d'ailleurs. Aujourd'hui, vous prenez des plantes, on prend, ça sent très très loin. Ça sent bon. Enfin bon, je ne sais pas, mais ça sent en tout cas. Veshorakan yafa yafa, veshorakan yafa yafa, kedeshete daka minha daka. Donc, la veille de Yom Kippour, on le faisait toute l'année, mais surtout la veille de Yom Kippour, on devait les moudre. Bien, bien, bien. Pourquoi? Kedeshete daka min hadaka pour que ce soit fine de chez fine. Alors, en français aussi, on dit fine de chez fine. D'accord?
Ça veut dire
fin du fin. Il fallait que ce soit vraiment fin. Pourquoi? Parce que les commentaires expliquent, ils disent que pour que ça donne une odeur, il faut que ce soit le plus fin possible. Parce que l'odeur, elle intervient à quel moment? Elle intervient au moment où ça brûle. Pour que ça brûle bien, il faut que ce soit une poudre. Si c'est des morceaux, ça ne fait pas la même odeur. C'est une poudre très très fine. C'est là que... Réach Nihoa. Alors, on va sauter les deux suivants, parce qu'on les fera baiser attachés après l'été. On va passer à Tania Rabbi Nathan Omer. C'était deux paragraphes. Vous savez?
Oui.
Tania Rabbi Nathan Omer. C'est enseigné, dans une braïta. Rabbi Nathan me dit la chose suivante. Keshehu Shochek Omer, lorsqu'il était en train de moudre, donc on l'a dit qu'il le faisait combien de fois par an?
Une fois.
Deux fois, bien. Une fois, c'était pour toute l'année, et une deuxième fois, c'était la veille de Yom Kippour. On repassait au moulin.
D'accord? Trois portions.
Mais, que les trois portions, ouais. Mais on le faisait une fois par an, donc ça fait deux fois. Alors, Keshehu Shochek, écoutez bien ce que dit la Braïta. Keshehu Shochek Omer, lorsqu'il est en train de les moudre, alors c'est pas simplement un boulot que bon, on connaît technique, allez, tu
roules, vas-y,
écrase. Non. Il parlait en même temps. Omer, il disait, Hadek Hetev, Hetev Hadek. Alors, il y avait un, bien sûr, qui était en train de s'essouffler, en train de moudre, quand on n'avait pas les machines comme à l'époque, et il y avait un autre qui était préposé pour lui dire, vas-y, adekete, vas-y, allez, mou bien. D'accord. Alors, pourquoi il faisait ça? Alors, il y en a un avis qui dit que c'était carrément celui qui était en train de moudre qui disait ça. Marloquet, est-ce que c'est lui qui devait le dire, ou il y avait un autre qui était préposé pour le dire? Mais il lui dit, vas-y, adekete, vas-y, écrase. Pourquoi il lui disait ça? Alors écoutez bien, parce que c'est assez impressionnant. Mipne chez Akol, il a fait la Bessamim. D'accord? Qu'est-ce qu'on dit ici? Qu'est-ce que dit la Braïta? Elle dit, Mipne Shakol, il a fait la Bessamim parce que la voix est bonne pour les Bessamim.
C'est quoi cette histoire? Ça magnifie.
D'accord. La voix est bonne pour les Bessamim. C'est quoi cette histoire?
C'est brachot, c'est bon.
D'accord. Hein? Alors, il y a plusieurs explications. Hein?
Il met de la musique automatique, c'est plus bien.
Oui, c'est même pas la musique, c'est là, on a l'impression, on a, c'est un gars qui est presque avec un fou, il dit « Allez, allez, que t'es, allez, allez, on écrase, plus, allez, allez !»
Non, peut-être qu'il était en train de chantonner.
Ah, pourquoi ? Alors, il y a beaucoup de mefarchines qui expliquent. Ils expliquent justement pourquoi on a besoin, à quoi ça sert.
Tout ça, c'est amour.
Alors, première, premier commentaire, premier commentaire, il y a un commentaire qui dit que « Adek et Tev », c'est que celui qui est écrasé devait écraser au rythme de celui qui disait « Adek et Tev ». Et qu'il y avait certains ingrédients sur lesquels il y avait besoin d'être plus écrasé. Donc lui, il devait écraser au rythme de celui qui disait Adek et Tev. Adek et Tev, Adek et Tev, Adek et Tev, Adek et Tev. Donc il devait suivre le rythme. Donc c'était une manière pour lui de suivre le rythme. Ça, c'est une première explication. Une autre explication, qui dit que, carrément, alors ça, c'est encore un autre commentaire qui est écrit dans Marzor Vitri. Alors bon, j'ai encore deux pirouchines comme ça. Qui dit que, lorsqu'une personne parle, même si on ne le voit pas, il y a quelque chose qui sort de la bouche. Mettez la main devant la bouche, vous allez voir que, lorsqu'on parle, il y a une haleine qui sort de la bouche. Bon, nous, on croit que c'est rien du tout.
Bonne ou mauvaise.
Il dit que... donc ça, c'est Marzor Vitri qui dit. Il dit que c'est écrit aussi dans Tosfot Yeshan. C'est écrit que l'haleine, ça avait aussi un effet spécial sur les kétorettes. Quand l'haleine se mélangeait à la poudre, alors ça, ne me demandez pas, je ne suis pas du métier.
Okay. Un bain de bouche avant. Hein,
c'est un deuxième commentaire. Un troisième commentaire, c'est ce que David a dit. D'accord? C'est ce que David a dit, c'est quoi? C'est que c'était tout simplement pour l'encourager. C'est pour l'encourager. Donc on lui dit Adek et Tev parce qu'à un certain moment ça devient dur. Vous savez, lequel moment c'est le plus dur? C'est quand on croit qu'on a fini. On dit non, vas-y, encore, encore. Donc il fallait l'encourager. En tant qu'on lui dit non, vas-y, Adek et Tev, rajoute encore une fois. C'est encore un commentaire.
C'était quand il était en train de moudre, ça.
Alors, il y a aussi un autre commentaire, écoutez bien. Intéressant, qui dit que lorsqu'on est en train de moudre, il y a une petite poussière qui monte à la surface.
Oui.
D'accord. Et que si on n'est pas en train de parler, cette poussière risque de rentrer dans la bouche, on risque de la respirer, et quand on la respire, ça risque d'être nocif pour la personne qui est en train de moudre.
Ah,
donc d'après ça, c'est un commentaire de Maïmonide qui dit que c'est celui qui est en train de moudre qui devait parler constamment. Pourquoi il devait parler constamment? Parce que quand on parle, on aspire beaucoup moins d'air.
En même temps, on reprend beaucoup.
Oui.
C'est la maladie des
D'accord.
boulangers.
C'est vrai.
Boulanger.
Mais, en tout cas, il y a moins
dans
de risques.
Des cancers.
La farine,
en
c'est un poison.
La farine.
C'est pour ça qu'il parle toujours.
La farine brûlée, c'est un poison.
C'est
pour ça qu'il faut même un... On l'a pas, notre boulanger qui est là. J'ai envie de le dénoncer.
Alors, c'est pour ça que...
Parler.
C'est pour ça que...
Chanter.
Le fait de parler, ça occupe la bouche, donc ça fait qu'on avale beaucoup moins de poussière. Et quand on s'arrête de parler, c'est là qu'on avale. Alors,
Oui, s'il y a des dentales, il y a des...
Je sais pas.
Non, avec que, le que il sort.
Je sais pas si je disais particulièrement ces mots. Bon, je sais pas, c'est vrai.
Il y a tel,
dec. Enfin, en tout cas, il fallait parler, quoi, c'est ce qu'on comprend. Et plusieurs me farcher, je vous dis. Alors, il y a encore un autre, ça c'est un commentaire intéressant. Qui est écrit dans Rabbi Yitzhak Rayot, il dit la chose suivante. Donc,
c'est Esraïl. Dans Tiedat Hashem.
C'est sûr.
Non.
Je crois qu'on va déquêter avec Tavadek.
Non. Il y a un autre texte.
Tania, Rabbi Nathan Omer, Chou Choura Komer, Adek et Tev, Hadek.
Attends, excuse-moi, c'est pas là.
Quoi, c'est pas là? C'est là?
Oui, non, attends.
En tout cas, c'est ça qu'on parle.
Alors, ça, c'est encore un autre commentaire intéressant qui dit la chose suivante. Écoutez bien, ça, c'est ceux qui travaillent
dans les métiers techniques. Il dit oui. Yafa au lieu
Écoutez
de dire,
bien, il y a un commentaire qui dit, il dit la chose suivante, dans l'Esprit, il ramène un commentaire suivant. Il dit que, lorsqu'une personne fait un métier technique qui demande beaucoup de force, le fait de parler du métier qu'on est en train de faire, ça fait que le métier nous fatigue moins.
Ah bon.
Par exemple, quelqu'un qui est en train de porter quelque chose, il dit je suis en train de porter, c'est lourd, etc. Le fait de parler de ça, ça fait que c'est moins lourd.
Ah bon.
Ça fait que c'est plus facile.
Je vais porter le contraire.
D'accord. Le fait de parler en même temps qu'il est en train de faire, ça fait que c'est plus... Oui, c'est comme on voit les gens, les coureurs, des fois ils se mettent à parler. Alors quand ils se mettent à parler, ils disent allez, on y va. Alors que normalement, techniquement, quand ils parlent, ils devraient fatiguer.
Ils s'encouragent quand ils parlent.
D'accord. Et on voit que quand on parle de ce qu'on est en train de faire, on prend des forces. Donc ça pourrait être aussi une raison pour laquelle il devait dire Adek Hetev.
Oui, comme les militaires qui marchent et qui chantent en même temps.
Oui. C'est une sorte de courant.
Il y a un rythme. Dans les galères, il faisait tout.
Et donc le Rif, il raconte, le Rif, il a vécu il y a à peu près 1000 ans, enfin il y a 800 ans, il raconte, il dit que, apparemment au Maroc, il dit, oui, j'ai vu les gens, lorsqu'ils sont en train de travailler, qu'ils ont envie de s'encourager, ils chantent en même temps qu'ils travaillent. Il raconte, il dit ce qu'il a vu. Donc il dit, voilà, j'ai compris avec ça les questions. D'accord ? Non, au contraire. Ça, vous pensez à autre chose. C'est tu parles de ce que tu es en train de faire.
Oui, vous pensez que c'est lourd.
Peut-être. Bon. Tu penses pas à ça, voilà.
Il y a de la fille de là, voilà. Au Betrabad.
Bon.
La da 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 da.
Bon, voilà, en tout cas on s'arrête ici. Bezrat Hashem, après l'été, on... Après l'été, on passera si je veux au commentaire des plantes.